Bonjour, mes frères et mes sœurs. Avez-vous du zèle dans ce que vous faites, dans ce que vous entreprenez, dans votre façon de penser et d'agir? Autrement dit, le zèle fait-il partie de votre vie quotidienne? Sinon, pourquoi pas? Ce qui est étrange, c'est que souvent, ceux qui sont membres de l'Église de Dieu font preuve de moins de zèle que ceux qui attaquent l'Église de Dieu. Pourquoi cette triste constatation? Il faut dire que pour avoir du zèle, il faut avoir un motif, une raison spécifique, d'accord? Bref, il faut que votre esprit soit préoccupé par quelque chose qui vous intéresse réellement, qui occupe votre esprit, qui vous remplisse d'enthousiasme. À travers l'histoire, tous ceux qui ont servi Dieu, et le Christ, bien entendu, tous les prophètes, tous ceux qui ont travaillé pour Dieu, ont travaillé avec zèle. Inspiration. Notons l'exemple du roi David, que Dieu avait choisi dans une famille qui était, quoi? Qui était disposée à servir. Mais comment David a-t-il vraiment voulu servir? Avec du zèle. Il a toujours voulu faire ce que Dieu voulait qu'il fasse, et il l'a fait avec l'enthousiasme de tout son cœur, sachant que Dieu est toujours là, est toujours disposé pour l'aider. Voyez-vous, nous n'avons pas assez de confiance en Dieu. Nous ne faisons pas confiance en Dieu, non. Et pourtant, la Bible dit que Dieu est toujours là à nos côtés, toujours prêt à nous servir. David, lui, était un homme selon le cœur de l'Éternel. Qu'en est-il de vous? Où en êtes-vous dans vos rapports avec votre Créateur? Avez-vous du zèle, vraiment? Pratiquez-vous votre religion avec du zèle, de l'enthousiasme, de la persévérance? Il n'en est pas ainsi en ce qui concerne les prétendus chrétiens de ce monde. Pas du tout. Les gens manquent de force et de conviction dans ce qu'ils font. Ils manquent d'enthousiasme dans ce qu'ils entreprennent. Ils manquent de persévérance dans la foi qu'ils professent. Et c'est vrai, vous le savez fort bien. En effet, si vous êtes réellement chrétien, autrement dit, si vous attachez, vous, de l'importance à ce que vous faites, à ce que vous entreprenez, si vous vous êtes fait baptiser après vous être repenti de vos péchés, et si vous avez reçu le Saint-Esprit, vous devez vivre avec du zèle. Vous devez être enthousiasmé dans ce que vous faites. Vous devez être enthousiasmé à l'égard de Dieu. Comprenez-vous cette vérité de base? Vos yeux devaient être constamment sur le Christ et sur le Créateur et sur le plan divin. Et même, bien sûr, dans tout ce que vous faites. Le Christ, votre Sauveur, est avec vous toujours et partout. Il est dans ce que vous faites, dans ce que vous entreprenez. Seulement, vous devez vraiment croire en Dieu et faire sa volonté et toujours respecter ses commandements. C'est ainsi que le roi David, lui, servait Dieu. C'est ainsi qu'il était, lui, un homme selon le cœur de l'Éternel. Dans Psaume, chapitre 119, verset 139, David écrit: « Mon zèle m'enthousiasme, parce que mes adversaires oublient tes paroles. » Pouvez-vous dire de même, en dirotant, êtes-vous vraiment enthousiasmé dans ce que vous entreprenez, dans ce que vous faites, et surtout dans vos rapports avec Dieu? Pouvez-vous garder les yeux sur le Christ, quelles que soient les difficultés qui vous affrontent? David avait du zèle pour l'Éternel Dieu dans tout dans tout ce qu'il faisait, en toutes circonstances. Une fois que vous avez ce genre de foi en Dieu, alors vous avez un aperçu différent. Une fois que vous savez que vous ne valez rien sans Dieu, alors vous avez une vue différente sur toutes choses. Vous gardez les commandements de Dieu avec respect, avec enthousiasme. Car sans Dieu, mes frères et mes sœurs, nous ne sommes absolument rien, vous et moi, absolument rien. Le zèle, selon la Bible, doit être à la base de notre foi en Dieu. C'est une question d'attitude, d'enthousiasme, de force, de caractère, de détermination, d'aller de l'avant avec force, avec fermeté, avec compréhension, avec fidélité. Même si les circonstances sont contre vous. Oui, je dis bien même si les circonstances sont contre vous. Ce faisant, vous pouvez être sûr de réussir dans tout ce que vous faites. Avoir du zèle, mes amis, ne signifie pas manquer d'humilité. Au contraire, plus vous avez du zèle, plus vous êtes humble. Car vous savez que c'est Dieu qui vous donne tout. C'est lui qui est capable de faire tout pour vous dans votre vie. Autrement dit, dans vos rapports avec votre Créateur, ne manquez jamais de l'enthousiasme ni du zèle. Agissez, agissez avec conviction, agissez avec force, agissez avec compréhension. C'est ainsi que Dieu vous aidera à mieux comprendre son plan. Dieu répond à tous vos besoins. Je dis bien tous vos besoins et non pas à tous vos désirs. Mais vous devez agir avec conviction. En est-il ainsi en ce qui vous concerne? Êtes-vous sincère dans vos efforts de chercher Dieu, de parler avec Dieu, de lui communiquer vos pensées? Voyez-vous, si vous êtes vraiment sincère avec Dieu, vous comprendrez mieux son plan pour vous, la raison pour laquelle il vous a appelé, la raison pour laquelle il nous a tous appelés. C'est ainsi que les véritables chrétiens doivent agir. Ce sont ceux qui font aujourd'hui ce que Dieu leur dit de faire. Ce sont ceux qui, aujourd'hui, forment la véritable Église de Dieu. Eh oui, ce ne sont pas ceux que vous rencontrez dans la rue qui prétendent être chrétiens, qui soient vraiment membres de l'Église de Dieu. Pas du tout. Les véritables chrétiens, je répète, ce sont ceux qui croient en Dieu, qui mettent en pratique ses paroles, qui obéissent à ses commandements, et qu'en toute chose, ils savent que Dieu, eux, est leur maître, leur créateur, leur protecteur. En est-il ainsi en ce qui vous concerne? Dieu est-il vraiment votre chef? Je vous pose la question, car beaucoup de gens aujourd'hui parlent de Dieu, prétendent croire en Dieu, mais Dieu n'est pas une partie d'eux-mêmes. Non. Ils font leur désir. Ils font ce qu'ils veulent faire. Et laissent de côté ce que Dieu veut qu'ils fassent. Dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 7, nous lisons, « Car, écoutez bien, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous donne, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Entendez-vous cela? Ce n'est pas un esprit de timidité, au contraire, un esprit de force, d'amour et de sagesse. Voilà ce que c'est qu'être chrétien. Voilà ce que c'est que croire en Dieu. Mais comment vraiment un esprit de force peut-il exister si vous manquez de zèle en vous-même? Je parle maintenant de vous, car voyez-vous, chacun de nous, nous devons vraiment dire que nous sommes zélés envers Dieu. Nous faisons ce qu'il nous dit de faire avec zèle, avec l'enthousiasme, avec force. Quand vous le constatez, les mots n'ont pas beaucoup de valeur, à moins que nous comprenions leur importance et que nous puissions savoir que chaque mot, nous devons pratiquer ce qu'il entend. Ce n'est pas toujours facile. Le zèle, je le répète, n'est pas zèle s'il n'est pas accompagné de conviction. Non, pas du tout. Le zèle n'est pas zèle s'il n'est pas fondé sur la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu se trouve dans la Bible. La Bible elle-même constitue la parole de Dieu. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne sont pas zélés, parce qu'ils ne croient pas à la Bible, parce qu'ils ne pratiquent pas ce que la Bible dit, parce qu'ils ne voient pas dans la Bible ce qu'ils cherchent vraiment. Le zèle, je répète, je répéterai, ce n'est pas zèle sans conviction. Voyez-vous, c'est pour cette raison que le zèle est absolument indispensable pour progresser, pour avancer, pour accomplir une tâche que Dieu vous donne et pour accomplir votre tâche quotidienne. Laissez-moi du reste vous citer les paroles du Christ à l'égard du zèle. Les connaissez-vous? Avez-vous pris le temps d'examiner la Bible pour voir ce que le Christ lui-même dit en ce qui concerne le zèle? Notez-le. Dans Matthieu chapitre 11, verset 12, nous lisons, « Dès le temps de Jean-Baptiste, jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. » Comment les violents? Que signifie « violent » Dans ce verset, voyez-vous, le mot « violent » n'a pas la même signification que et pas tout ailleurs dans notre vocabulaire. Ici, le mot violent sous-entend enthousiasme. Ceux qui ont un motif, ceux qui veulent avancer, ceux qui veulent marcher avec conviction, ceux qui sont disposés à servir Dieu malgré et en dépit de tout. C'est ça le sens de violent ici. Donc, nous devons avoir ce genre de caractère pour pouvoir accomplir la tâche que Dieu nous donne et pour pouvoir un jour entrer dans son royaume. Notez l'exemple de l'apôtre Paul, qui était, lui, un homme plein de zèle, plein de courage, plein d'enthousiasme, plein d'humilité. Lui, il avait la foi, mais la foi qu'il avait, c'était une foi fondée sur le Christ, sur la parole du Christ. Il a assumé ses responsabilités envers Dieu, toujours d'après la façon dont Dieu voulait qu'il assume, et non pas d'après sa propre façon. Non pas pour gagner quelque chose pour lui-même. David voulait servir Dieu. Il n'a pas cherché, lui, la satisfaction de ses propres désirs. C'est là le secret. Dans tout ce que vous faites, cherchez avant tout à satisfaire Dieu et non pas vos propres désirs, vos propres, je dirais, les choses que vous voulez avoir. David, lui, a cherché en toutes circonstances à servir l'Éternel Dieu avec compréhension, avec zèle. C'est toujours le Christ, en fin de compte, qui assume et qui assure la garantie de la victoire. Comprenez-vous cela? Il y a une victoire partout, mais cette victoire n'est possible que si Christ est notre chef. Si nous marchons avec lui main dans la main, si nous faisons sa volonté, c'est ça qui vous rend véritablement chrétien, véritablement un disciple de Christ. Autrement, vous ne valez pas grand-chose. Revenons à l'apôtre Paul. Paul était plein d'humilité. Paul a toujours voulu dire et nous montrer que sans Dieu, nous ne sommes rien, mais qu'avec Dieu, nous pouvons tout faire. Regardez son exemple. Étudiez sa façon d'agir. Étudiez sa façon de faire les choses. Dans Philippiens chapitre 3, versets 7 à 14, nous lisons, regardez-moi la force de ses paroles, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte. Notez cela. C'est que Paul cherchait. Il les a eus, mais il les regarde comme une perte. Pourquoi ? À cause du Christ. Tâchez de comprendre ces mots, cette conviction. C'est ainsi que vous pouvez avoir du zèle. Verset 8, Philippiens 3. Et même je regarde toute chose comme une perte. Notez-le. Toute chose comme une perte. Pourquoi ? À cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Comprenez-vous ? Pouvez-vous comprendre l'importance de cette déclaration ? Paul dit qu'il regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, notre Seigneur. Ensuite, il ajoute, et ça c'est intéressant, il dit, pour lequel j'ai renoncé à tout. Est-ce l'écran qui vous concerne ? Si vous êtes chrétien, avez-vous renoncé à tout à cause du Christ, à cause de l'excellence de son nom, de l'excellence du travail qu'il fait? Voyez-vous, Paul conclut ainsi, je cite toujours le verset 8, « Et je les regarde comme de la boue. » De la boue? Eh oui, afin de quoi? Afin de gagner le Christ. Regardez voir les comparaisons que Paul fait. Regarde voir la façon de s'exprimer. Il regarde toute chose comme de la boue à cause de pouvoir gagner le Christ. Et il dit, verset 9, et d'être trouvé en lui, non pas ma justice, mais sa justice. La justice qui vient de la loi. Voyez-vous? La justice vient de la loi et non pas de vos propres convictions. Et pourtant, beaucoup de chrétiens aujourd'hui rejettent la loi. Ils ne veulent pas croire que la loi existe. Mais Paul dit, ils cherchent la justice qui vient de la loi, avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. Vous savez, ces mots ne sont pas des mots vains de sens. Pas du tout. Paul parle ici d'une justice qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Moi, je vous conseille vraiment de prendre le temps de vous agenouiller devant Dieu et de lire ces versets, de lire, de les méditer. Et Paul explique au verset 10, toujours Philippiens 3, il dit, « Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. » Voyez-vous, et pourtant aujourd'hui, il y a tellement de chrétiens qui ne croient même pas que le Christ est ressuscité. Mais comment peut-on vraiment être chrétien si on ne croit pas aux paroles du Christ? C'est triste, ne pensez-vous pas? Il dit, « Afin de connaître le Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui, au Christ, dans sa mort. » Voyez-vous, c'est ainsi qu'on peut vraiment comprendre la Bible. Ce n'est pas une question de lire la Bible. Ce n'est même pas une question d'étudier la Bible. C'est une question de méditer, de digérer, de comprendre. Et ensuite, de mettre en pratique ce que Dieu dit. Verset 11, Philippiens 3. Si je puis, à la résurrection d'entre les morts, si je puis parvenir à la résurrection d'entre les morts, C'est ça, mes frères et mes sœurs, le but de la vie. Nous avons été créés pour parvenir à la résurrection des morts. C'est-à-dire, pour le moment, nous sommes tous physiques. Nous mourrons. Si nous n'avions pas en tout, en nous, l'Esprit du Christ, le Saint-Esprit, nous n'aurions plus jamais d'existence. Mais lorsque nous nous repentons de nos péchés, lorsque nous recevons l'Esprit de Dieu en nous verse les arts pour la vie éternelle. Et cela nous garantit vraiment que lorsque nous mourrons, après la mort de cette vie physique, nous héritons de la vie éternelle par l'Esprit de Dieu. C'est cela dont parle Paul dans Philippiens chapitre 3, d'une façon claire. Mais il est aussi humble parce qu'il montre et dit, « Si je puis, dit-il, arriver à la résurrection des morts ou d'entre les morts. » Voyez-vous, on n'est jamais sûr. Jamais sûr, car c'est Dieu qui fait tout. Nous devons toujours avoir les yeux sur le Christ. Nous devons savoir que si Dieu veut que nous puissions entrer dans son royaume, nous devons avant tout le respecter. Nous devons avant tout faire sa volonté. Nous devons avant tout savoir que c'est lui et lui seul qui nous donne la garantie d'arriver à la résurrection des morts. Quand Paul dit « si je puis », ce « je puis » montre l'humilité. Aussi l'assurance que toutes choses sont faites par Dieu. Au verset 12, Philippiens 3, notez cette assurance de Paul et pourtant en même temps humilité. Il dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. Le prix, c'est la récompense, la vie éternelle. Ou que j'ai déjà atteint la perfection. Nous ne pourrons jamais être parfaits jusqu'au moment où nous serons esprits. Donc, cette perfection dont parle l'apôtre Paul ne peut être atteinte que lorsque nous sommes nés de nouveau. Non pas comme le monde parle de la nouvelle naissance, mais nés de nouveau, c'est-à-dire nés de l'Esprit de Dieu. Ensuite, Paul montre encore son humilité. Il dit, non pas que j'ai déjà remporté le prix, pas du tout. Pour autant que nous soyons sur cette terre, nous n'avons pas encore remporté le prix. Ce n'est pas possible. Parce que nous sommes charnels, nous sommes humains, nous sommes chers et sang. Donc, pour autant que nous soyons sur cette terre, nous devons lutter comme l'apôtre Paul a lutté. Mais avoir toujours cette conviction que nous atteindrons la perfection. Il dit, je cours pour tâcher de la saisir. Comprenez-vous? Voilà la beauté. Parce que si Dieu veut que nous puissions être capables d'arriver dans son royaume, nous devons être sûrs que Dieu nous donnera l'aide. Mais nous devons être humbles. Il dit, pour tâcher de saisir. Puisque, voyez-vous, là encore, une fois encore, cela vous montre comment vous pouvez atteindre la perfection. Puisque moi-même, dit-il, j'ai été saisi par Jésus-Christ. C'est ainsi que nous aussi, nous devons être saisis, afin de pouvoir arriver au but. Ensuite, vous savez, c'est un mot que je voudrais lire et ne rien dire, mais quand même, il faut que je vous explique. Au verset 13, l'apôtre Paul dit, « Frère, je ne pense pas l'avoir saisi. » Non. Enfin, je ne pense pas, c'est une façon de penser ou de parler, mais Paul savait qu'il n'avait pas encore saisi. Mais dit-il, « Je fais une chose. » Alors, qu'est-ce que Paul fait? Comment est-ce que nous pouvons savoir? Comment est-ce que nous-mêmes, nous pouvons l'imiter? Il dit, je fais une chose. Donc, si nous sommes vraiment chrétiens, nous devons savoir ce qu'il fait et l'imiter en cela. Parce que Paul était un homme qui servait Dieu. Parce que Paul sera dans le royaume de Dieu. Voilà pourquoi nous devons écouter avec silence et avec zèle ce qu'il nous dit. Il dit, je fais une chose. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il fait? ce qui est en arrière, me portant vers ce qui est en avant. Là encore, c'est un autre secret dans la vie. Pour arriver au but, ne regardez pas en arrière, regardez en avant. Faites ce que le Christ vous dit. Croyez au Christ. Croyez à ses enseignements. Et comment je crois en avant? Il dit, je cours, verset 14, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu. Comprenez-vous ce que c'est que la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ? Voilà le but de la vie. Nous arrivons au but de la vie, la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ, en croyant vers le but devant nous. L'apôtre Paul devait chercher à trouver la justice selon la force et la foi en Christ. C'est ce que nous devons faire. Quel rapport y a-t-il entre la foi et le zèle, demanderez-vous? Comme je l'ai déjà expliqué, la foi sans le zèle n'est pas complète. Il faut toujours avoir la foi avec le zèle. C'est pourquoi l'apôtre Paul a écrit encore, et je cite, il dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour chercher, pour tâcher de saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par le Christ. J'aime cette répétition de mots. Paul était saisi par le Christ, non pas contre sa volonté, pas du tout, mais Paul voulait faire ce que le Christ voulait qu'il fasse. Voilà pourquoi Paul a été saisi par le Christ. Et il voulait agir, toujours comme le Christ voulait que Paul agisse. Le Christ lui-même, lorsqu'il était sur cette terre, marchait avec zèle, parlait avec du zèle, faisait les choses avec le zèle. Il a toujours agi, lui, le Créateur suprême, devenu homme sur cette terre, le Christ nous a montré ce que c'est que le zèle. Du reste, il nous dit dans Matthieu chapitre 7, versets 13 à 14, et je cite, voilà encore une exhortation extrêmement importante. Il dit, entrez par la porte étroite. C'est facile d'entrer par la porte large. Aujourd'hui, l'humanité cherche d'entrer par la porte large. Parce que c'est facile. Il n'y a pas de restriction, il n'y a pas de commandement, il n'y a pas d'obéissance. On fait ce qu'on veut. Mais ça, ce n'est pas la façon d'entrer dans le royaume de Dieu. Le Christ a dit, entrez par la porte étroite. Pourquoi? Parce que là, vous avez les commandements qu'il faut respecter. Là, vous avez les lois qu'il faut mettre en pratique. Là, vous avez la parole du Christ d'après laquelle nous devons vivre. Et le Christ ajoute, entrez par la porte étroite, Matthieu 7, 13 à 14, car large est la porte. Voyez-vous, il répète, large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à quoi? Qui mène à la perdition. Voilà la différence. Si vous cherchez la voie de la perdition, cherchez la voie qui est large et non pas étroite. Et le Christ ajoute, et il y a beaucoup qui entrent par là, c'est-à-dire par la voie qui est large. Mais au verset 14, il répète, et ça c'est important, mais étroite est la porte. Resserrez le chemin qui mène, quoi? À la vie éternelle. Et le Christ précise, il y en a peu qui les trouvent. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous avez des millions de chrétiens, et pourtant, très peu ont trouvé la voie étroite. Voilà pourquoi vous entendez vous entendez toutes sortes de religions, sans seulement religion chrétienne. Voilà pourquoi il y a toutes sortes de doctrines. Il n'y a qu'une seule possibilité, mes frères et mes sœurs, pour trouver la vérité. Prenez la Bible, ouvrez-la, lisez-la, étudiez-la et mettez en pratique ce que Dieu déclare. C'est la seule façon de trouver la voie étroite. C'est la seule façon d'arriver au but. Voilà pourquoi le Christ a dit, je répète, la porte est resserrée. Le chemin qui mène à la vie est étroit. Et il n'y a que peu qui entrent par là. Voyez-vous maintenant pourquoi aujourd'hui nous avons tellement de chrétiens, pourtant ce sont des gens en pleine confusion. Vous avez toutes sortes de noms donnés au christianisme, toutes sortes de doctrines. Mais en réalité, le christianisme n'est pas compliqué. La parole de Dieu n'est pas difficile à comprendre. Le Christ a dit que même un enfant pourrait les comprendre. Dans ce sens, que ce que Dieu dit. Si vous êtes comme un enfant, si vous écoutez, si vous cherchez, si vous demandez à Dieu honnêtement de vous montrer la voie, Dieu vous répondra. En lisant la Bible, tâchez de bien comprendre la signification des mots, lesquels à l'origine n'étaient pas dans les mêmes langues que nous connaissons aujourd'hui, quelle que soit la langue moderne que nous parlons. C'est pourquoi vous devez chercher, je répète, avant tout, la signification des mots originaux. Quand je parle du zèle, il faut savoir ce que c'est que le zèle. Quelle est l'origine du zèle? Vous serez surpris, et très surpris même, que le mot zèle et jalousie ont le même sens, ont la même origine. Eh oui! Mais direz-vous, comment est-ce que le zèle et jalousie peuvent être des synonymes? C'est là la réponse. Le fait est que si vous avez ce zèle, cet enthousiasme, vous devez être jaloux de ce que vous avez, de ce que vous comprenez. Et vous vous attachez à cette compréhension avec du zèle, avec de la jalousie. C'est ça. Voilà comment le zèle et la jalousie peuvent être synonymes. C'est cette compréhension qui vous permet de mieux comprendre ce que c'est que le zèle lorsque vous comparez à un sentiment humain qui n'est pas très agréable, la jalousie, mais prenez le sens de jalousie dans sa compréhension spirituelle. Si vous avez du zèle, spirituellement parlant, vous faites preuve de jalousie pour ne pas perdre ce que vous avez. Il s'agit là, je répète, d'une jalousie spirituelle. Voilà comment ce sont là des mots synonymes. Il s'agit d'une jalousie que Dieu veut que nous ayons, car le zèle spirituel nous dirige vers la jalousie spirituelle de maintenir, de conserver, d'aller jusqu'au bout, ne pas voulant perdre ce que vous possédez. Il y a une différence. Et pourtant, le sens est le même. Autrement dit, si vous êtes jaloux de quelque chose, vous ne voulez pas le perdre. Voilà pourquoi nous devons, nous, être jaloux de la vérité que Dieu nous révèle. Et nous ne voulons pas perdre cette vérité. Nous devons tout sacrifier s'il le faut pour cette vérité. C'est pourquoi Dieu lui-même déclare dans la Bible qu'il est un Dieu jaloux. Commencez-vous à comprendre? Dieu veut conserver ce qu'il a, ce qu'il nous a donné, ce qu'il nous promet dans la Bible. Et il fait, en quelque sorte, d'une jalousie spirituelle dans tous ses désirs. Or, nous sommes vraiment convertis si nous avons reçu le Saint-Esprit et si nous nous comportons avec le Saint-Esprit, si nous faisons une partie de Dieu, car avoir le Saint-Esprit de Dieu en nous, c'est avoir une partie de Dieu en nous. C'est normal. Voilà pourquoi nous devons garder avec jalousie le Saint-Esprit que nous avons reçu. Ésaïe était un prophète de Dieu. Il a vécu dans son... Il a écrit dans son livre, chapitre 26, versets 11 à 13, et je cite, notez bien, Ésaïe 26, versets 11 à 13, « L'Éternel, ta main est puissante. » Regardez la force de cette phrase, de cette déclaration. Les gens ne l'aperçoivent pas. Ils verront ton zèle pour le peuple et ils en seront confus. Le feu consumera tes ennemis. C'est Ésaïe qui parle toujours. Tâchez de comprendre ce qu'il dit dans son contexte. Éternel, verset 12, tu nous donnes la paix, car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Voilà une vérité de base. C'est Dieu qui accomplit tout. Tous nos savants, tous ces génies en ce monde ne peuvent rien faire, ne font rien sans Dieu. C'est toujours Dieu, en fin de compte, qui accomplit les choses. Voilà pourquoi Ésaïe dit, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Éternel notre Dieu, d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous. Mais c'est grâce à toi seul. Gardez voir cette force à nouveau. Grâce à toi seul que nous invoquons ton nom. Je répète, mes frères et mes sœurs, sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Pourtant, les hommes ont cette vanité. Ils prétendent avoir accompli des choses. Non, il n'y a rien que l'homme, même le plus grand savant, ait pu accomplir sans Dieu. C'est toujours Dieu qui nous donne la force. C'est toujours Dieu qui nous donne la capacité d'accomplir quoi que ce soit. Une fois que vous avez en tête, vous saurez ce que c'est que l'humilité. Et que vous saurez que l'humilité et le zèle vont ensemble, main dans la main. Et que de même, la jalousie et le zèle ont la même force lorsqu'il s'agit de chercher Dieu, d'accomplir ce qu'il nous dit d'accomplir. Savez-vous que Dieu avait du zèle pour son peuple? Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas perdre son peuple. Quand on a du zèle pour quelque chose, on ne veut pas le perdre. De même pour la jalousie, on est jaloux de garder ce qu'on a. Le peuple ne le méritait pas. Mais Dieu aimait le peuple. Dieu a donné sa vie pour conserver son peuple. Voilà pourquoi, je répète, il avait du zèle. Et il a du zèle pour son peuple. Il est jaloux, dans ce sens qu'il ne veut pas perdre son peuple. Vous êtes heureux, vous, en tant que peuple de Dieu, si vous comprenez cette vérité de base et si vous vivez en conséquence. Le véritable chrétien, mes amis, doit être quelqu'un de zélé. Zélé d'avoir était appelé par Dieu. Zélé d'avoir vraiment reçu une mission spéciale, celle de servir Dieu, celle de proclamer l'Évangile, celle d'attirer l'attention des gens sur le fait que sans Dieu nous ne sommes rien et qu'avec Dieu nous pouvons faire tout. Tout accomplir, à condition que nous fassions notre part, à condition que nous puissions vraiment mettre en pratique ce que Dieu nous dit. Le véritable chrétien ne pourra jamais reculer devant l'adversité. Non, il ne devra pas reculer devant l'adversité, quelles que soient les circonstances. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui assure la victoire. Parce que c'est Dieu qui vraiment, en fin de compte, fait tout. Cette force divine en nous, par le Saint-Esprit, nous aide à accomplir ce que Dieu veut que nous puissions accomplir. Dieu nous dit dans Deutéronome chapitre 6, verset 15, qu'il est un Dieu jaloux. Je répète, je fais exprès pour vous montrer que le mot jaloux et le mot zélé sont synonymes dans ce sens-là. Il nous ordonne, garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu, verset 12. Si nous devons vraiment garder de ne pas perdre ce que nous avons, dans ce cas-là, nous sommes zélés. Dans ce cas-là, nous sommes jaloux dans ce sens-là. Regardez où en sont les nations aujourd'hui, les nations sincèrement chrétiennes. Regardez surtout l'Amérique, les États-Unis, le grand pays qui jouissait il y a quelques années encore d'une grandeur fantastique. Où en est aujourd'hui l'Amérique? Elle est tombée. Elle est tombée. Elle n'a presque plus de force. Elle a presque tout perdu. Elle continuera à perdre. Ce pays va de plus en plus en arrière. Pourquoi? Parce qu'il a perdu son zèle pour Dieu. Parce qu'il est devenu comme les autres nations qui croient en Dieu seulement d'une façon qui plaise à la nature charnelle. On pourrait dire que non seulement les Américains ont perdu leur identité en ce qui concerne leur titre d'une nation chrétienne, choisie par Dieu, comme les Anglais, comme les Français si vous voulez, mais c'est un pays qui a perdu de vue la parole de Dieu. C'est un pays qui cherche à être grand à sa façon et non pas comme Dieu veut que la grandeur ait lieu. L'Amérique aujourd'hui, franchement parlant, n'est pas chrétienne. Non. Ils adorent, les Américains, ce que les païens adorent. Ils cherchent la richesse terrestre, tout ce qui est monétaire, au lieu de chercher la vérité, la parole de Dieu, au lieu de chercher la victoire dans le succès, comme on appelle moral. Vous savez, c'est triste. Moi, je ne suis pas né américain. Je suis devenu américain. Je suis venu voir, je suis venu visiter l'Amérique et je suis resté. J'ai aimé à l'époque ce que l'Américain était. Mais si je devais venir aujourd'hui et voir où est l'Amérique, je ne pense pas que je resterais. Parce que ce n'est plus le pays que Dieu avait choisi. C'est un pays étranger. C'est un pays où Dieu n'est plus adoré. Dieu n'est plus respecté. C'est un pays où les gens cherchent la gloire humaine et non pas la gloire qui vient de Dieu. Dans Deutéronome chapitre 6, verset 13, Dieu dit, « Tu craindras l'Éternel ton Dieu, tu le serviras et tu jureras par son nom. » C'était le pays, l'Amérique, auparavant. C'est ainsi que les gens agissaient. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est l'or qui dicte. Aujourd'hui, c'est l'égoïsme. Aujourd'hui, on a empiété, on a rejeté les paroles de Dieu en ce qui concerne les rapports entre les hommes. Donc, je vous ai dit que l'Amérique, je répète, aujourd'hui, suit la voie païenne et non pas la voie chrétienne. De même que la France, si vous voulez, de même que l'Angleterre, si vous voulez. Nous qui étions au début des nations chrétiennes, nous devenons de plus en plus des nations païennes. C'est triste. Au verset 15 de ce même chapitre, nous lisons, c'est-à-dire Deutéronome 6, verset 15, « Car l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu jaloux. Voilà le mot qui réapparaît. Zélé, jaloux. Au milieu de toi, la colère de l'Éternel, ton Dieu, s'enflammera contre toi. Et il t'exterminera de dessus la terre. C'est une triste prophétie. Vous savez, les gens veulent savoir ce qui va se passer. S'intéresse à la prophétie. Voilà la prophétie. La prophétie qui dit que ce que nous étions, nous ne sommes plus, et que nous perdrons ce que nous avions. C'est exactement ce qui se passe et ce qui va se passer. Autrement dit, selon les prophéties bibliques, nous constatons que du fait que les nations, censément chrétiennes, se sont détournées de Dieu, Dieu les a laissées à leur sens réprouvé. Dieu les a abandonnés. Dieu les laisse choisir le sort qu'ils ne veulent pas choisir. Les nations veulent aujourd'hui arriver au but, mais elles n'arriveront pas au but à moins d'avancer la façon divine. Comprenez-vous cela? Dieu est notre sauveur. Il veut nous sauver. Le Christ est venu donner sa vie, mais il faut que nous changions notre voie. Il faut que nous puissions comprendre ce que c'est que le christianisme. Il ne faut pas jeter ce que Dieu nous a révélé dès le début. Si étrange que cela puisse vous paraître, la jalousie de Dieu s'exprime envers nous par son amour, lequel s'exprime parfois par des châtiments qui ne sont pas toujours agréables. Dieu ne veut pas que nous ayons des idoles. Dieu ne veut pas que nous adorions ce qui est païen. Et pourtant, c'est ce que les nations font aujourd'hui. Je parle maintenant des nations chrétiennes. Voyons-nous ensemble à l'époque actuelle. Dieu nous a dit de ne pas nous détourner de lui, de ses commandements, et pourtant, une fois encore, nous nous détournons de lui. Nous nous détournons de ses commandements. Regardez voir ce qui se passe en Amérique. Toutes les lois divines, pour ainsi dire, sont rejetées. Regardez voir l'attitude des gens les uns vis-à-vis des autres. Ces mariages entre des individus du même sexe. Eh oui! C'est le peuple que Dieu avait choisi et que Dieu avait dit, tu adoreras ton Dieu, tu mettras en pratique ses commandements. Dieu nous recommande de ne pas avoir d'autre Dieu devant lui. Et pourtant, regardez combien de dieux existent de nos jours. Regardez combien de religions existent de nos jours. Les nations, d'une façon générale, se sont détournés de Dieu. Et nous cherchons la perfection. Nous nous demandons pourquoi Dieu nous a-t-il abandonnés. Non, Dieu ne nous a pas abandonnés. Il ne va pas nous abandonner, jamais, si nous faisons notre part. Voilà pourquoi je dis, soyons courageux. Faisons confiance en l'Éternel Dieu. Partageons ces sentiments de jalousie pour préserver notre propre vie. Si vous êtes dans la véritable Église de Dieu, vous ne devez pas craindre l'adversaire, pas du tout. Vous devez toujours avoir les yeux sur le Christ et agir avec la promesse que Dieu veut que vous puissiez arriver au but. Je le répète, si vous avez foi en Dieu, vous saurez que la promesse que Dieu vous fait, les promesses plutôt, dans la Bible, seront toujours valables. Et Dieu tiendra toujours parole. Vous serez victorieux, car Dieu lui-même déclare, et je cite, Apocalypse chapitre 2, verset 26, « À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. » Entendez-vous cela? C'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui promet. Il dit à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Et encore, Apocalypse 3, verset 22, nous disons, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, autrement dit, si vous écoutez, si vous faites ce que Dieu dit, et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et je serai avec lui. Voyez-vous, celui qui vaincra, répète Dieu, verset 21, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, et je me suis assis avec mon Père sur mon trône. C'est le Christ qui parle. Il montre la victoire dont il a fait preuve. Il a lutté, lui, comme nous luttons aujourd'hui, avec force, avec zèle, avec enthousiasme. Il a été victorieux. Pourquoi ? Parce qu'il a marché avec le Père. Parce que, main dans la main, il a fait ce que le Père lui commandait de faire. Et il dit, j'ai vaincu, dit-il, je suis assis avec mon Père sur son trône. C'est le même sort que vous et moi, nous partageons si nous faisons de même. Et au verset 21, nous lisons, que celui qui a des oreilles, ce que l'Esprit dit, entende. J'espère que vous avez des oreilles. J'espère que moi, j'ai des oreilles. Voyez-vous, mes frères et mes sœurs, nous avons la Bible. Nous lisons la Bible. Nous avons Dieu qui est toujours là, qui est toujours vivant. Nous pouvons prier l'Éternel Dieu chaque jour. Dieu nous entend. Dieu nous a promis de nous entendre lorsque nous nous adressons à lui. Il est toujours prêt à nous aider. Il est toujours prêt à répondre à nos questions si celles-ci sont honnêtes, si celles-ci sont vraies. Mais lorsque vous demandez une chose à Dieu, attendez sa réponse. Qu'il vous réponde à sa façon. N'interprétez pas ce qu'il dit à votre façon. Ne tordez pas ce que Dieu vous dit. Soyez toujours prêts à suivre le chemin qu'il trace devant vous. C'est ainsi que vous arriverez à vaincre votre nature charnelle, comme nous tous. Une chose est certaine, Satan le diable est aussi plein de jalousie, plein de zèle à sa façon, mais d'une jalousie différente, d'une jalousie méchante. La sienne est charnelle. Satan cherche à dévorer, à faire perdre, tandis que Dieu cherche à nous faire arriver au but, c'est-à-dire à la vie éternelle. Satan veut vous décourager. Dieu veut vous encourager. Satan veut vous détruire. Dieu veut vous amener à la victoire éternelle. Satan trompe. Il est menteur. Ses sentiments sont hostiles. Dieu dit la vérité. Dieu vous mène à la vie éternelle. Je répète, et Dieu veut que vous puissiez arriver. Il vous donne la force. Vous voyez, en ce qui concerne ce qu'on appelle le christianisme, c'est la voie que le Christ nous montre. Tandis que Satan voudrait nous indiquer, nous-mêmes forcer à prendre la voie qui mène à la perdition. Aujourd'hui, les gens adorent, je répète, un Dieu qui n'est pas celui de la Bible. Nous avons des centaines, voire des milliers d'églises qui se nomment chrétiennes. Et pourtant, elles ont des croyances différentes. Et pourtant, elles ont des doctrines différentes. Et pourtant, ce sont des religions qui, elles, s'opposent aux paroles du Christ. C'est Satan qui plante dans l'esprit des hommes de tels sentiments. C'est celui qui, en fin de compte, nous fait croire que Dieu n'est pas juste, que Dieu est injuste, que Dieu veut nous faire perdre. Ce n'est pas vrai, mes frères et mes sœurs. Dieu veut nous sauver à condition que nous fassions, nous, ce qu'il nous dit de faire et non pas ce que Satan nous inspire à faire. À condition que nous nous détournions de la voie humaine qui mène vers la perdition. Satan sème la division entre les hommes, même entre les membres d'une famille. Regardez où nous en sommes aujourd'hui. Toutefois, il ne sera pas vainqueur. La religion que le Christ est venu nous enseigner, ce christianisme, c'est lui qui sera vainqueur. Parce que le christianisme, le véritable, est dirigé et contrôlé par le Christ lui-même. Le véritable christianisme sera vainqueur, je répète, nous pouvons en être certains. Tandis que Satan, le diable, lui, sera vainqueur. Il perdra tout. Voyez du reste ce qui est écrit dans l'Apocalypse, chapitre 12, verset 9, et je cite. Voyez-vous, je prends toujours la Bible, car la Bible nous montre ce qui va se passer. Et c'est la Bible qui nous dit la vérité. Croyez à la Bible, étudiez la Bible, tâchez de comprendre ce que Dieu veut que vous fassiez. Apocalypse 12, verset 9. Et il fut, on parle de Satan, et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. C'est clair, on ne peut pas dire que l'individu n'est pas identifié, au contraire. Celui qui séduit toute la terre, Satan détruit toute la terre, il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Les anges dont il est question ici, ce sont les démons. Un tiers des anges a suivi Lucifer dans la Bible. Et Lucifer, qui est un archange, est devenu Satan le diable. Donc la Bible dit qu'un tiers des anges sont devenus des démons parce qu'ils ont suivi Lucifer. Lorsque vous étudiez la Bible, mes frères et mes sœurs, gardez en tête la raison pour laquelle Dieu nous a créés. Ça, c'est important. Étudiez chaque mot de la Bible. Ne questionnez jamais les sentiments d'amour que Dieu a envers nous tous. Chaque parole divine doit être pour vous et pour moi une instruction, un enseignement pour suivre la voie que Dieu veut que nous puissions suivre. Chaque instruction divine doit être pour nous un soutien, une vérité révélée par Dieu qui nous montre la voie du succès. La Bible est la clé qui ouvre toutes les portes. Mais il faut mettre en pratique. Mais il faut connaître la Bible et non pas tordre. Dans Hébreux chapitre 6, verset 10, nous lisons que Dieu n'est pas injuste pour oublier notre travail. Voilà encore une promesse intéressante. Rappelez-vous toujours cette promesse divine. Dieu n'est pas injuste pour oublier notre travail. Dieu toujours tient sa promesse. En est-il de même en ce qui nous concerne? Nous devons vraiment agir de même. Nous devons faire de sorte de ne jamais perdre les promesses que nous faisons à Dieu. Les véritables saints dont parle la Bible sont ceux qui croient aux promesses divines et qui les respectent. Bibliquement parlant, nous sommes des créatures physiques, mais nous deviendrons des créatures spirituelles lorsque le Christ reviendra sur cette terre. C'est cela le but de la vie. C'est ce que nous attendons tous. Et je répète, la Bible constitue la parole de Dieu. Bien entendu, c'est la vie de la réussite, du succès. Quelles que soient vos épreuves, quelles que soient mes épreuves, nous devons tous, nous, toujours rester fermes sur les enseignements bibliques. Ne jamais abandonner, jamais. La victoire est toujours devant nous si nous continuons à suivre les commandements divins. Voyez-vous, j'ai répété durant ce sermon plusieurs fois les mêmes choses, mais c'est la base. Nous avons besoin non pas de nouvelles instructions, mais que nous nous rappelions les instructions que Dieu nous donne. Car c'est Dieu et Dieu seul qui nous promet la victoire finale. Si parfois vous êtes découragé, si parfois vous ne savez pas de quel côté vous tournez, mettez-vous à genoux. Parlez à Dieu ouvertement, avec zèle. Demandez-lui de vous aider à comprendre et demandez-lui d'avoir de la miséricorde pour vous. Voyez-vous, Dieu est plein de miséricorde. Il sait que nous avons tous besoin de lui et il a promis dans la Bible de nous accorder toujours l'aide dont nous avons besoin. Quelqu'un m'a dit un jour qu'il ne savait pas si vraiment on peut compter sur Dieu. Eh oui, mes frères et mes sœurs, la réponse est toujours la même. Vous pouvez toujours compter sur lui. C'est ça. Même si vous ne pouviez compter sur votre meilleur ami, vous pouvez toujours compter sur Dieu. Car votre meilleur ami sera sur cette terre, un être physique. Mais Dieu est au ciel. Et Dieu veut que vous puissiez arriver au but. Dans Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 18, l'apôtre Paul nous recommande « Au reste, dit-il, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toujours puissante. » Ce sont des promesses pleines de sens. Nous devons nous fortifier par le Seigneur, par la force divine. Revêtez-vous toujours de toutes les armes de Dieu, écrit Paul au verset 11, afin de parvenir avec force contre les ruses du diable. Car, verset 12, ajoute-t-il, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde que nous avons vu, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, écrit l'apôtre Paul, prenez toujours les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Car, voyez-vous, cette promesse va s'accomplir. Les jours qui viennent sont mauvais. Et ils sont mauvais, très, très mauvais pour nous tous. Mais si nous avons ces armes dont l'apôtre Paul parle, nous n'avons pas besoin de craindre. Verset 14. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez-vous la cuirasse de la justice. Mettez toujours pour chaussure à vos pieds le zèle, ça revient, le zèle qui nous donne l'évangile de paix. En est-il le cas qui me concerne? En est-il ainsi que vous vivez, vous, en tant que chrétien? Et Paul ajoute, faites en tout temps, verset 18, faites en tout temps par l'Esprit de Dieu toutes sortes de prières, de supplications, veillez à cela avec une entière persévérance et priez toujours pour les saints. Voyez-vous, les saints dont il est question ici, ce sont les véritables chrétiens, par le passé ou aujourd'hui. Ce sont ceux de nos jours qui sont membres de l'Église de Dieu. C'est ici, mes frères et mes sœurs, la véritable clé du succès. Et vous et moi, nous avons cette clé, et Dieu veut que nous puissions la garder et nous en servir jusqu'à ce que son royaume arrive.